Nous sommes de retour. On va discuter avec Philippe Urteau, qui est chercheur à l'IRIS, l'Institut d'information et de recherche socio-économique au Québec, qui arrive pas tout à fait aux mêmes conclusions, si on veut, que le Conseil québécois du commerce de détail et aussi de l'Institut économique de Montréal par rapport au salaire minimum à 15 $. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous, vous croyez que c'est une bonne chose d'augmenter le salaire minimum?
Bien, en fait, effectivement, c'est une bonne chose d'augmenter le salaire minimum parce qu'actuellement, le salaire minimum ne parvient pas à rémunérer les gens suffisamment pour que, qu'une personne qui travaille à temps plein au salaire minimum puisse se sortir de la pauvreté et puisse bien vivre. On a développé, nous, à l'IRIS, ce qu'on appelle notre indicateur du salaire viable. Qu'est-ce que c'est, grosso modo? C'est un calcul dans différentes villes québécoises, dans différentes situations, des gens seuls, en couple, des gens avec enfants, sans enfants. Calculer combien ça prend comme rémunération horaire pour que ces personnes-là, pour que les gens puissent bien vivre. Donc, se payer un panier de consommation de base, mais se payer aussi un petit surplus pour avoir une marge de manœuvre pour faire des choix, pouvoir choisir d'aller en camping en famille une semaine l'été, pouvoir choisir d'aller au restaurant, pouvoir faire face aux imprévus quand un enfant est malade, qu'on doit manquer une journée de travail, pas que ça nous prenne à la gorge, qu'on soit capable de parer un peu aux imprévus de la vie finalement. Ça, c'est ce qu'on appelle un niveau de salaire viable. Et quand on calcule quand on fait la moyenne de nos différents indicateurs de salaire viable pour le Québec, on arrive à 15,10 $. Donc, ce qui nous fait dire que le niveau de 15 $ est assez, une cible assez bien choisie, finalement, si on veut que les gens qui travaillent à temps plein au Québec aient de quoi vivre, pas simplement se payer le minimum, pas simplement survivre, se sortir de la pauvreté et bien vivre quand une personne travaille à temps plein. Donc, ça me semble plutôt être une bonne mesure. Après ça, reste à voir comment l'appliquer, dans quel échéancier. Mais donc, c'est un objectif qui semble assez bien ajusté à la réalité du coût de la vie au Québec.
Bon, si c'est évidemment une bonne chose pour sortir plusieurs travailleurs de la pauvreté, les impacts, cependant, selon d'autres organismes, seraient difficiles pour les entreprises, parce qu'on parle d'entreprises ou surtout de vente de détail, où là, on rencontrerait des difficultés. On parle même de perte d'emploi ou de fermeture d'entreprise.
Oui, bien, c'est sûr qu'augmenter le salaire minimum, ça a des impacts sur les coûts des entreprises. Ça, c'est assez évident. Ceci étant dit, il faut bien rappeler que il n'est pas question présentement d'une augmentation, de faire un choc d'augmentation, d'augmenter, par exemple, le 1er mai là, 2017. Personne vraiment réclame que le salaire minimum soit à 15 $ dès le 1er mai prochain. On parle plutôt d'augmentation sur quelques années. Certains parlent d'un horizon jusqu'en 2022. Donc, on voit que le principal risque économique pour les entreprises, c'est si, effectivement, on leur annonce quelques semaines ou un mois ou deux mois d'avis qu'ils doivent augmenter de 4 $ certains de leurs employés comme ça. Ça peut poser des problèmes. Donc, la principale manière de pallier à ça, c'est d'annoncer des hausses et d'annoncer clairement que ça va être des hausses importantes, mais des hausses importantes étalées dans le temps. Et ça, on voit que la majorité des effets négatifs disparaissent dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que les entreprises, en fait, les coûts de salaire, c'est un coût parmi d'autres, et ils sont habitués de gérer avec des variations de leurs coûts, des variations de leurs ressources qu'ils achètent, variations des produits, variations des coûts de transport. Donc, c'est des variables que la très vaste majorité des entreprises, même dans le commerce de détail, sont capables de s'adapter. Et même, en fait, dans le commerce de détail, et ça, c'est fascinant parce que hier, une étude nous disait que ça va créer des conditions non concurrentielles pour les entreprises de détail, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on augmente le salaire minimum partout au Québec, l'ensemble des entreprises du commerce de détail vont être soumis aux mêmes règles et il n'y aura pas de désavantage concurrentiel pour aucune d'entre elles. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Et finalement, quand nous, on fait des évaluations, vraiment, combien d'emplois sont effectivement à risque, parce qu'il y a des emplois qui seraient à risque d'être perdus, on arrive à des évaluations relativement modestes, c'est-à-dire entre 6 000 et 20 000 pertes d'emplois potentielles advenant une hausse à 15 $ de l'heure. Il faut bien se rendre compte, en 20 000 pertes d'emplois, c'est 2% des gens qui seraient touchés par la mesure. Quand on prend toutes les personnes qui gagnent 15 $ de l'heure et moins, 20 000 personnes, c'est 2% du total. Donc, oui, il y aurait des conséquences potentiellement négatives pour 2% de l'ensemble, mais des conséquences fortement positives pour 98% des autres. Et donc, quand on met en place des politiques publiques, aucune politique n'est jamais 100% bonne. C'est impossible, ça existe à peu près pas des politiques uniquement et unilatéralement bonnes. Ce qu'on doit faire, c'est un calcul coût-bénéfice. Est-ce que les avantages dépassent les coûts? Et dans ce cas-là, on se rend compte que les avantages, les retombées positives dépassent de beaucoup, en fait, les retombées négatives.
Bon, l'effet que ça pourrait avoir, je donne un exemple, là. On augmente les salaires. La tendance, est-ce que les commerces vont augmenter le prix de tout ce qu'ils vendent pour récupérer cette augmentation de salaire-là pour garder leurs employés? Dans le fond, l'effet d'augmenter le salaire pour pouvoir donner plus de moyens aux travailleurs qui sont dans la pauvreté, est-ce que ça ne s'annule pas quelque part si tous les prix augmentent après?
Ça ne s'annule pas. Parce qu'en fait, faut comprendre, les coûts de salaire, c'est un coût parmi d'autres pour les entreprises et c'est à peu près jamais la majorité. Il y a très peu d'entreprises pour lesquelles les salaires représentent la majorité des dépenses.
Mais si on refile la facture, finalement, aux consommateurs...
On a fait des travaux de projection, on arrivait, le coût, et là, on a été plutôt drastique, là, on s'est dit, si on augmente à 15 $ de l'heure dès cette année, donc on y va d'un seul coup là, pour vraiment montrer, on fait un choc, on monte à 15 $ de l'heure le 1er mai prochain, on voyait pour 2017 l'impact sur l'inflation entre 1,1 et 2,6. Donc, un impact sur l'inflation, ça va faire augmenter les coûts des denrées, des marchandises de 1 à 2,5 pour arrondir un peu. Et de l'autre côté, il faut bien rappeler, pour les gens qui sont les 200 quelques mille personnes qui sont au salaire minimum, on parle d'une augmentation de 40 de leur salaire. Donc, oui, ces gens-là auront des biens de consommation un peu plus chers, entre 1,5, 2,5, mais ils auraient une augmentation de leur salaire de près de 40.
Donc, il est faux de prétendre que finalement, l'impact au niveau, là, qu'on refilerait ça complètement aux consommateurs. Là. Donc,
De un, on ne le refile pas complètement aux consommateurs. De deux, ça a un impact quand même limité sur l'inflation. Entre 1 et 2 c'est pas tant que ça. Et de trois, dire que ça vient complètement manger la hausse pour les gens qu'on prétend aider, ça, c'est complètement faux. C'est absolument impossible. Puisque les salaires ne représentent pas la totalité des coûts d'entreprise, c'est pas vrai qu'une augmentation de salaire se traduit directement dans les prix que cette entreprise-là va vendre. Ça, c'est purement logiquement, c'est entièrement faux.
Bon, les régions comme la Gaspésie, on est un peu ciblé selon une autre étude de l'Institut économique de Montréal qui dit qu'on serait une des régions les plus touchées parce que par notre économie, on a beaucoup plus de personnes qui travaillent à un salaire minimum et que ce serait beaucoup plus difficile à ce moment-ci. Donc, risque de perte d'emploi, d'augmenter le chômage et aussi de fermeture d'entreprises, donc plus accentué chez nous.
Bien, en fait, c'est très intéressant. C'est une étude qui est sortie la semaine passée par les gens de l'Institut économique de Montréal. Ils nous disaient, par exemple, pour la MRC de Rocher-Percé, 52 d'emplois à risque. Pour la MRC de la Haute-Gaspésie, 47. Donc, vraiment des pourcentages très élevés. Le problème, c'est que, et là, faut bien le dire, les gens de l'Institut économique de Montréal ont peut-être tourné les coins ronds un peu. C'est-à-dire, ils ont simplement pris le portrait de qui, dans ces MRC, gagne moins de 15 $ de l'heure. Et ils ont dit, donc, tous ces gens-là vont être touchés par une augmentation des salaires à 15 $ de l'heure. Et donc, tous ces gens-là seraient potentiellement à risque de voir leur emploi disparaître. Mais ça, c'est entièrement faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les emplois. Parce que la majorité des emplois, par exemple, les gens qui sont à 12, à 13, à 14, à 14 et 50, c'est pas tout vrai que tous ces gens-là, leur emploi sont à risque si on augmente les prix. Donc, il y a vraiment là eu un peu un scénario très catastrophe mis de l'avant qui n'est pas du tout observable dans les faits. Je vous rappelle, les évaluations, on parle entre 6 et 20 000 emplois perdus pour l'ensemble du Québec. Ça, c'est les évaluations que nous, on a faites à l'IRIS. Le Conseil du patronat, il y a un mois, parlait de 28 000 emplois perdus. Donc, même les gens du Conseil du patronat avaient des évaluations quand même assez basse, 28 000 emplois à risque d'être perdus, c'est impossible qu'un emploi sur deux dans la MRC de Rocher-Percé soit à risque. Ça voudrait dire qu'il y aurait 2 600 emplois à risque. Ça n'a aucun sens. Ça prendrait presque une part trop importante de l'ensemble des emplois dans tout le Québec. Donc ça, il y a vraiment eu un travail un peu bâclé de la part des gens de l'Institut économique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu montrer c'est quoi le pourcentage des gens qui seraient affectés par une mesure. Et comme on le dit, regardez, nous, nos calculs de projection nous disent que 98% des gens touchés par une augmentation de salaire minimum seraient touchés positivement. Ce que l'Institut économique de Montréal dit, c'est que dans la MRC de Rocher-Percé, par exemple, 52% des gens qui travaillent seraient touchés par cette mesure. Donc, on pourrait dire qu'il y aurait donc un employé sur deux. Avec nos calculs, sont un peu plus raffinés que ce qui a été offert par l'IEDM, on arrive à la conclusion qu'en fait, que sur une personne sur deux, 98% d'entre eux seraient touchés positivement. Donc, ce serait même plutôt une bonne mesure, puisque ça augmente la rémunération des gens qui sont à 15 $ et moins. Les MRC, qui ont beaucoup de gens-là dans leur MRC comme salariés, ben, seraient touchés encore plus positivement que d'autres MRC plus riches.
Bon, y a quand même des risques que l'entreprise décide de peut-être diminuer son nombre de travailleurs, qu'on donne plus d'heures à certains, moins à d'autres, d'éliminer un peu le temps partiel, de remettre un peu plus de tâches de travail. C'est sûr qu'il peut avoir un mouvement, là. Vous contestez pas ça non plus, là.
Non, mais c'est tout à fait. Mais c'est ça qu'on dit. Quand on dit qu'on calcule qu'il pourrait avoir jusqu'à 20 000 pertes d'emplois, c'est des emplois qui sont à risque, ça compte ces transformations-là dans l'organisation, des diminutions d'horaires, diminutions de temps partiel. Nous, c'est 20 000 équivalents temps plein qu'on a calculé. Donc, ça prend en compte. Oui, effectivement, et ça, il faut être très clair, il se peut très clairement qu'il y ait des gens qui vont être touchés négativement par cette mesure-là.
Mais moins que ce qui est annoncé par d'autres instituts. Philippe Hurtault, chercheur donc à l'Institut d'information et de recherche socio-économique, merci pour ces détails, cet entretien.
Merci à vous.